RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Ce soir, notre invité est Julien Aubert. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Les Républicains de Vaucluse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre parti a déposé une motion de censure dès l'annonce par Édouard Philippe de l'utilisation du 49-3, ce texte qui permet de passer en force. La gauche a sa motion également. Toutes les deux n'ont aucune chance d'aboutir. Donc, il y a le fond. Et il y a la forme. Alors sur le fond, on le sait tous, ça ne servira à rien. Mais sur la forme, ça vous sert à quoi ?
Alors sur le fond, ça sert à l'opposition quand même. Enfin, l'opposition de droite sert à l'opposition de droite pour expliquer les raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec la réforme des retraites. Quelle réforme nous aurions souhaité voir ou faire ? Sur la forme, il faut bien voir que c'est l'unique arme que laisse l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, pour avoir un vote sur ce texte, puisque de toute façon, il n'y aura pas de vote sur le texte des retraites. Au moins, ça nous aura permis de voter pour notre motion, comme nous aurions voté, sans doute, contre cette réforme des retraites.
Pourtant, votre électorat est pour cette réforme des retraites. Elle est pour une forme d'autorité, elle est pour peut-être...
Mais tout le monde est pour l'autorité et la réforme des retraites.
Est-ce que c'est une forme d'autorité, là ? Mais parce qu'on accuse le gouvernement d'être
autoritaire. Mais c'est comme le cholestérol. Vous savez, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Il y a la bonne et la mauvaise réforme des retraites. Je pense, si vous voulez, quand vous dites les gens sont favorables, quand vous parlez
aux... Enfin, vos électeurs.
Vous savez, les avocats, par exemple, qui sont des professions libérales, les médecins, allez leur demander s'ils sont pour la réforme des retraites. Ils vous diront, on fait main basse sur nos réserves de régime complémentaire. Certainement pas. Si vous allez voir les cadres du privé, qui vont voir une augmentation de 2 points de leur cotisation, ils vous diront certainement pas. Même si vous allez voir les plus riches qui sont débouclés de la solidarité nationale, puisqu'on va les sortir du système par répartition, ils vous disent pas vraiment, parce qu'en réalité, on va me baisser mes prestations et on va m'obliger à faire de la capitalisation. Donc, ils ne sont pas forcément non plus favorables.
Ouais. Pourtant, la droite, à une époque, s'était essayée à supprimer les régimes spéciaux. Et à caler devant les réformes, les manifestations.
Est-ce qu'elle a vraiment calé ? Prenez par exemple le régime de...
Écoutez le poste du Premier ministre.
De l'industrie électrique et gazière. C'est en 2004 que la droite a adossé ce régime sur le régime général, c'est-à-dire à empêcher que des subventions publiques viennent équilibrer ce régime extrêmement généreux, celui de EDF et de ex-GDF. Donc aujourd'hui, on va le supprimer. Mais en réalité, ce régime spécial avait été très largement corseté par le législateur en 2004. Donc la droite a toujours réformé avec courage les retraites. Ce que nous proposons d'ailleurs dans le cadre de cette réforme, c'était de venir
courage,
au bout
mais
de
pas
12 ans.
Vous.
Ben, c'était de le faire au bout de 12 ans. Après, je crois, si vous voulez, que les retraites, justement, c'est quelque chose que vous faites par bout, parce que le dossier est tellement gros et tellement vaste. Nous en étions arrivés au point où la réforme des derniers régimes spéciaux, il en reste une dizaine, était possible. Mais c'est bien parce qu'avant, il y avait eu 3 réformes des retraites par la droite.
Alors l'Assemblée nationale quand même piétinait depuis des jours sans avancer d'un pouce, enfin un peu d'un demi-pouce, on va dire 41 000 amendements. Les députés y seraient encore à Noël. Fallait-il continuer cette tragicomédie ?
C'est que l'obstruction est le résultat de la politique voulue par le gouvernement. Quand vous avez une réforme à 350 milliards d'euros, qui concerne la quasi-totalité des Français, que vous décidez de la présenter sans plan de financement, moi j'ai jamais acheté une maison, si vous voulez, sans avoir le prix, ou sans avoir le détail de ma banque, qu'on vous demande de la voter les yeux fermés, qu'on vous demande de voter en 15 jours, en mode accéléré, sans possibilité d'avoir un deuxième débat derrière, et que vous vous étonnez qu'une partie de l'opposition, qui est viscéralement contre, mais pas pour les mêmes raisons que nous, eh bien cherche à retarder l'échéance, quelque part, vous êtes l'auteur de vos propres turpitudes. En réalité, si le gouvernement voulait éviter ça, c'était très facile. Il suffisait de le programmer après les élections municipales et pas avant, pas en 15 jours, mais en 3 semaines ou en 1 mois, et en temps programmé, de manière à ce que chaque groupe ait un temps limité.
Oui, mais il y aurait eu quand même 41 000 amendements de la part...
Non. Parce qu'en temps limité, si vous faites 41 000 amendements, au bout du 200e amendement, vous n'avez plus de temps de parole et c'est terminé.
Ouais. C'est vrai, vous avez raison. Votre parti a du mal à se remettre de la défaite cuisante de François Fillon, dont c'est l'actualité d'ailleurs, puisque son procès a lieu, puis celle de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Comment la droite peut renaître face, dans le fond, à un président qui fait une politique de droite, d'ailleurs, qui a un Premier ministre et deux ministres de droite, et d'une Marine Le Pen qui détient le fonds de commerce de la sécurité, de l'immigration, des sujets qui sont chers à la droite?
Moi, j'ai l'impression que votre question est mal posée, si vous me permettez. D'abord, non, Emmanuel Macron ne fait pas une politique de droite. On pourra me dire ce qu'on veut.
Bah, les gens de gauche diront qu'il fait une politique de droite.
Oui, mais moi, une politique de droite, par exemple, c'est une politique qui défend les propriétaires. Considérer demain que on va posséder les murs et pas le sol, considérer demain que on va taxer les propriétaires immobiliers et pas les propriétaires mobiliers, qu'on va supprimer la taxe d'habitation et pas la taxe foncière, bref, faire une politique qui va à l'encontre de tous ceux qui possèdent un bien, ça n'est pas une politique de droite. Je donne un exemple. Pressuriser les cadres en leur faisant porter le poids de la réforme, c'est-à-dire le milieu de la pyramide, les classes moyennes, ça n'est pas non plus une politique de droite. Donc déjà, si vous voulez, il y a un premier effort, c'est de convaincre les électeurs de droite, mais ils sont en train de revenir. Rassurez-vous, il n'y a qu'à voir les sondages municipaux de que Emmanuel Macron ne fait pas une politique de droite. Ensuite, ça ne suffit pas. D'abord, une politique de droite, ce qui est important, c'est de mener une politique qui soit bonne pour le pays. Et donc, ça suppose, évidemment, de nous remettre aussi en question. Moi, ce que je propose, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé mon mouvement qui s'appelle Oser la France, c'est de faire revivre un courant de pensée qui était majoritaire à droite, qui était le courant de pensée gaulliste, séguiniste, appelez-le comme vous voulez, républicain, social, souverainiste. Mais d'ailleurs, on est en train d'y revenir. Regardez comment sur le coronavirus,
on
s'aperçoit qu'on n'est pas capable de produire des masques et des médicaments. Ça s'appelle la souveraineté. Mmh. La souveraineté, c'est être capable de maîtriser son destin. Aujourd'hui, la France n'est pas capable de maîtriser son destin. Et je crois, si vous voulez, que c'est l'avenir. Et d'ailleurs, regardez ce que fait Boris Johnson en Grande-Bretagne, regardez ce que fait Donald Trump, eh bien, il mène par paquet entier de politiques publiques.
Ce sont vos exemples?
Pas les hommes, mais dans les choix politiques. Par exemple, le choix, si vous voulez, de Boris Johnson de nationaliser les chemins de fer pour recréer un service public, oui, ça fait partie, moi, de ce que je plaide à rebours d'une idéologie néolibérale qui explique qu'en permanence, le secteur privé va mieux gérer. Parce que moi, je suis un député rural et je sais très bien que si on met en concurrence les petites lignes, eh bien, elles vont disparaître pour ce qui concerne ma circonscription.
Donc une droite plus sociale, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
Une droite plus sociale, une droite qui est libérale mais pas néolibérale, une droite qui est effectivement claire sur l'autorité et le régalien, une droite qui est patriote, qui aime la nation, et à rebours, je dirais, du gloubi-boulga macronien sur l'Europe souveraine et le fait qu'on va faire remonter à Bruxelles tous les problèmes qu'on n'a pas réussi à gérer au plan national. Regardez, j'ai posé une question, pas plus tard qu'aujourd'hui, au ministre des Affaires étrangères sur la Turquie. J'ai eu une réponse d'une indigence. L'Europe va tout faire. La France est incapable aujourd'hui de mener une politique diplomatique autonome.
On va en parler de ça aussi. Rachida Dati, donc, est en tête au premier tour dans les sondages pour la mairie de Paris devant Anne Hidalgo, mais cela au premier tour. Est-ce que Paris est gagnable par la droite? Mais on dit que la candidate aura fait son plein de voix au premier tour.
Je ne sais pas ce que c'est le plein de voix, parce qu'en fait, on considère que les gens sont la propriété, quelque part, des partis politiques. En réalité, les gens vont au second tour se positionner par rapport à un choix qui est très clair. Voulez-vous, oui ou non, je dirais, reconduire Madame Hidalgo? Pensez-vous que son bilan est bon? Je crois qu'il y a une majorité de Parisiens qui pensent que Madame Hidalgo a été une catastrophe comme maire de Paris. Et donc, ils auront une seule touche sur laquelle ils pourront appuyer, c'est Rachida Dati. Et à mon avis, une grande partie risque d'appuyer, et vous verrez que ça ira bien au-delà. Je vais vous dire, au second tour des élections, moi j'ai fait mon premier tour des élections législatives, 20%, le score cuisant de François Fillon que vous citiez tout à l'heure. Et pourtant, au deuxième tour, j'ai gagné 13 points chez les communistes à gauche, y compris au Front National. J'avais fait mon plein de voix à droite, mais une élection étant en deux tours.
Alors, en tout cas, est-ce que ce qui se passe avec Rachida Dati, d'après vous, c'est l'anticipation d'un retour du clivage gauche-droite, c'est-à-dire ce qui pourrait se passer en 2022. Est-ce que c'est un peu l'espoir de la droite de dire, dans le fond, vous disiez tout à l'heure, les électeurs de François Fillon de 2017 vont revenir au bercail?
Je crois qu'il faut toujours être prudent lorsqu'on veut tirer des conclusions nationales d'un scrutin local parce qu'il y a la personnalité. Maintenant, que dans une ville comme Paris, qui est sociologiquement extrêmement favorable à En Marche, on retrouve finalement un clivage droite-gauche du fait de la faiblesse des candidats d'En Marche. Que même les candidats d'En Marche se distinguent entre une aile droite et une aile gauche montre bien que la grande fumisterie de 2017, l'idée que le clivage droite-gauche était morte, en réalité, eh bien, se fait jour dans le cas d'espèce.
Vous pensez que ça reste une aventure personnelle, la République en marche, celle d'Emmanuel Macron ?
Je crois, c'est ce que j'ai écrit dans le livre que j'ai acheté,
Vous l'avez acheté,
je l'ai acheté aussi parce qu'il faut bien faire des ventes, qui s'appelle Emmanuel le faux prophète. Je crois, si vous voulez, que le macronisme tient par Emmanuel Macron, qu'il est la clé de voûte, qu'il est à la fois son alpha et son oméga, et qu'en réalité, il n'y a pas de corpus idéologique parce qu'il est le seul à pouvoir dire ce qu'est le macronisme, qui a pris d'ailleurs beaucoup d'acceptation et beaucoup de zigzags dans sa contre-existence.
Alors ça complétera la question de tout à l'heure sur la droite, dans le fond, quel corpus idéologique elle a aujourd'hui. On se pose un petit peu la question, et surtout la personnalité, c'est-à-dire le Deus ex machina qui sortira de la boîte en 2022 pour conquérir l'Élysée. Alors il y a certains noms qui circulent, François Baroin, le patron des Hauts-de-France,
Xavier Bertrand.
Vous avez, vous, une personnalité qui, vous pensez, sera solide pour 2022 ?
Ce sont toutes et tous des personnalités solides. Après, ce qui m'intéresse, moi, c'est mon pays. Et pas forcément une ambition individuelle. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous mettions un candidat qui tienne ses promesses en place, qui ait une vision de l'intérêt national, qui restaure la compétitivité industrielle de ce pays, qui ait une politique d'aménagement du territoire, qui s'adresse aux classes moyennes et aux classes populaires, et qui redonne du sens à l'action publique dans un monde où, malheureusement, beaucoup de gens sont désorientés. Oui. Et c'est sur cette grille que j'analyserai, moi, les propositions qui sont faites par les candidats. Je pense que nous avons beaucoup de pré-candidats de talent. Simplement, il faut qu'ils nous disent quel est le message qu'ils ont à donner à la France, parce qu'une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et le pays.
Alors, je reviens deux secondes sur, et on passera à autre chose, sur l'unité de votre parti, qui n'est pas totalement pour maintenant. Valérie Pécresse va soutenir d'autres candidats face à Rachida Dati à Paris. Donc ça veut dire quoi? Que la division continue de régner dans vos rangs? Ou bien ça veut dire que la personnalité de Rachida Dati pose un problème?
Ah non, on ne peut pas dire ça.
Ah bah,
je vais vous dire pourquoi.
La question.
Parce que Valérie Pécresse...
Il y a certaines inimitiés quand même.
D'accord, mais Valérie Pécresse a quitté les Républicains.
Oui.
Donc on ne peut pas dire que le parti... et désunis parce qu'il y a des gens qui sont partis.
Elle est quand même de votre famille politique, quand même.
Ah oui, non, mais alors du coup, ça pose un problème, parce que si vous voulez, la famille politique, vous savez, vous avez des gens de notre famille politique qui aujourd'hui sont au Front National, je pense à M. Chenu ou M. Alizio, vous avez des gens qui sont passés en marche, je pense à M. Darmanin ou M. Philippe ou M. Le Maire, vous avez des gens qui sont entre les deux, vous avez des gens, enfin, donc, vous avez M. Mariani, il est passé quasiment au Front National, donc, à un moment donné, le concept de famille est un concept de compliqué. Moi, ce que je regarde, c'est qui est adhérent aujourd'hui des Républicains. Dans les adhérents des Républicains, ben, il n'y a pas Madame Pécresse. Donc, je dirais, elle est logique quelque part. Maintenant, il faudrait que nous soyons logiques aussi de notre côté, parce qu'après, on va avoir des élections.
Non, mais par exemple, le maire du 15e a une certaine inimitié pour Philippe Goujon, pour
Voilà un exemple qui est effectivement
est
beaucoup plus probant. Donc là, oui, dans le 15e, il y a une division de la droite parisienne, qui vient du fait que, si j'ai bien compris, le maire du 15e ne souhaitait pas, je dirais, s'engager derrière Rachida Dati. Moi, c'est pas un problème de parti, si vous voulez, c'est un problème de cohérence. À un moment donné, on fait pas 20 élections indépendantes, et puis ensuite, les gens votent pour la liste de droite, puis ils verront ensuite s'ils votent pour Rachida Dati. Enfin, à un moment donné, quand je vote pour la liste de droite Rachida Dati, c'est pour avoir Rachida Dati comme maire.
On va passer au coronavirus, donc qui galope à toute vitesse dans le monde. En France, le nombre de personnes atteintes est de 200, avec 4 morts. La semaine dernière, le Premier ministre a réuni les chefs de parti. Est-ce que le gouvernement gère bien cette crise et trouve dans le fond le bon équilibre entre la précaution et l'alarme? Est-ce que vous avez confiance dans ce gouvernement sur la crise sanitaire? Et après, on parlera de la crise économique.
Sur la crise sanitaire, je dirais qu'il se débrouille de manière moyenne. Parce que, il faudra m'expliquer, le virus est apparu en Chine mi-janvier, fin janvier.
Oui.
On sait qu'il arriverait un jour en France. On découvre maintenant qu'on n'est pas capable de produire des masques. Et lorsqu'on veut produire du gel, on est obligé de jeter une grande quantité parce qu'il y a une bactérie. Tout ça quand même donne, je dirais, un petit côté non préparé. Après, vous avez des mesures de confinement. Vous avez des gens qui vont être confinés alors que, a priori, on sait qu'ils ne sont pas malades. Je pense que ça fait de l'Oise. Puis après, vous allez avoir, par exemple, des liaisons qui vont être fermées, comme par exemple la liaison d'Air France avec la Chine, mais on autorisait les compagnies chinoises à atterrir. Vous aviez des gens qui accueillaient ces gens venus de Chine sans masque, donc ils peuvent être contaminés. Je connais personnellement quelqu'un qui s'est rendu à Hong Kong, aller-retour, il n'a eu aucun contrôle à l'aller, aucun contrôle au retour. Donc il ne faut pas non plus s'étonner si le virus a fini par arriver du côté de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, puis ensuite, je dirais, migrer dans l'Oise. Enfin, donc, je pense pas qu'on a pris toutes les mesures.
Le gouvernement n'est pas derrière un virus. Hein.
Il n'est pas derrière un virus, mais en mesure de prévention, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que dès que Éric Ciotti a dit on pourrait, par exemple, faire de la prévention aux frontières, tout de suite, dès que le mot frontière apparaît, non, on ne peut pas toucher à la frontière. Mais bon... Mais on sait très bien que le virus va traverser les frontières. Maintenant, je veux dire, installer, je dirais, à la frontière terrestre, des gens qui vont vous distribuer un petit flyer, vous disant, voilà, si vous vous sentez mal, voilà le numéro le plus proche, distribuer un masque, prendre une mesure de température, enfin... essayez en tout cas d'avoir une action...
Il nous reste que 2 minutes. Le virus est l'illustration que nous sommes dans une dépendance mondiale les uns des autres. On voit bien avec la Chine, notamment les médicaments, qui détient ce qu'on appelle les produits actifs. Hein, notamment, ils produisent, les Chinois, le Doliprane et l'ibuprofène. Est-ce qu'il faut, d'après vous, accélérer la relocalisation en Europe, c'est-à-dire recréer des sources d'approvisionnement en Europe ?
Évidemment, il faut s'interroger sur notre indépendance stratégique, sur nos points de faiblesse, nos points de vulnérabilité. Les médicaments en sont un. En 2004, au moment du SRAS, la Chine produisait les virus, la France produisait des médicaments. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle produit, la Chine, des médicaments et les virus. Et donc, quand elle exporte un virus, nous ne sommes pas capables d'avoir les médicaments. Ça s'appelle la souveraineté. Mmh. Et donc, ça suppose d'avoir une notion de l'intérêt national.
Ouais. Et d'ailleurs, donc l'OCDE a la sonnette d'alarme. Hein, la croissance mondiale devrait baisser de 2,9 à 2,4 cette année. Si la propagation s'étendait en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe, elle pourrait même descendre à 1,5 avec un risque de récession. Vous seriez ministre de l'économie, vous faites quoi ?
Je serai ministre de l'économie. Je commencerai par faire un audit sérieux, secteur après secteur, des points de vulnérabilité, c'est-à-dire... Quelles sont les industries dont nous avons immédiatement besoin si un demain on devait avoir une contraction massive des échanges pour nous permettre de garder à flot certaines industries stratégiques. Je pense notamment à la défense, etc. Et à partir de là, eh bien, j'entamerai effectivement, en plus les taux d'intérêt viennent de baisser, je ferai un grand emprunt national pour investir massivement, je dirais, dans ces industries de relocalisation.
Et est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que la France oublie les déficits et la dette pour provisoirement ?
La dette ou les déficits, tout dépend pourquoi vous en faites. Si vous en faites pour fonctionner, c'est très mauvais. Si vous en faites pour investir et pour rééquilibrer le navire, c'est très bon. Il faut arrêter de raisonner comme des comptables. Quand vous êtes politique, vous ne faites pas de la comptabilité, vous faites de la politique. C'est-à-dire que vous vous préoccupez de l'intérêt des Français.
Et l'Allemagne, on compte sur l'Allemagne pour relancer ? En Europe.
Pardon ?
Faut-il compter sur l'Allemagne pour relancer ?
Je peux espérer que les Allemands auront à cœur l'intérêt national allemand et que du coup, ça, je dirais, aura une répercussion chez nous. Mais vous savez, aide-toi et le ciel t'aidera.
Merci, on restera sur cette phrase. Merci beaucoup, Julien Aubert, et merci à Charlotte Thorien-Thomacka.